Je remercie les organisateurs de ce colloque, ce laboratoire, et puis nos chers amis et collègues que je remercierai pendant la pause café pour ne pas prendre beaucoup de temps de parole qui me reste. Je suis arrivé de Dakar avec mon ami, on est arrivé à 6h du matin, donc on n'a pas dormi, ce qui explique le combat parfois, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sujet très intéressant que je vais essayer d'aborder sur plusieurs angles. D'abord, sur la difficulté de l'approche de l'étude de l'islam subsaharienne ou d'origine subsaharienne en France, qui a été très souvent un sujet plutôt anthropologique, tel que les concepts d'islam noir, etc., plus qu'une problématique de science politique dans le sens d'une forme de religiosité à la base de dynamiques sociales et politiques. Il y a eu donc cette non-prise en compte de cette forme d'islam en France dans les années 70-80 et n'est pas du tout intégrée dans les questions sociales. Et comme vous le savez, en France, à l'époque, pour parler de l'islam, il y avait un focus sur les populations d'origine maghrébine en France dans les années 90, surtout avec la répercussion directe de la crise algérienne en France, avec une forme à l'époque de gouvernance sécuritaire de l'islam et une orientation vers une forme de gestion d'une menace extérieure qui aurait des liens avec une communauté présente en France. C'était ça le topo à l'époque. C'est-à-dire que cette diversité de l'islam de France a été rarement traduite en opportunité scientifique par les spécialistes de l'islam de France, par ce qu'on appelle les africanistes, mot qui veut pas dire grand-chose, mais qui permettait de cantonner une matière et d'avoir une autorité sur cette matière-là, avec une parole légitime, exclusive, faisait parfois même qui ne donnait pas beaucoup d'importance au renouvellement du terrain. Et enfin, en fait, il y a ce que j'appelle l'opportunité. La France est devenue le cadre de redécouverte mutuelle d'une diversité. C'est-à-dire que la France a offert aux musulmans de plusieurs pays du monde à découvrir la diversité de l'islam. Les Turcs qui ont vu des subsahariens faire le maouloud, les Algériens qui ont découvert des Comoriens, etc. Et ça, je pense que cette opportunité-là de la France en tant que terre d'une diversité des réalités islamiques n'a pas été beaucoup exploitée par nos collègues chercheurs. Et donc, il y a aussi cette absence de musulmans d'origine subsaharienne des instances représentatives de l'islam en France, depuis le CSM, et une discrimination presque incorporée par ces musulmans aussi, qui ont une part de responsabilité dans cette marginalisation, et quelquefois je parle d'auto-marginalisation, parce que ils n'ont pas de lieu de culte, et donc une quasi-absence des instances de gestion du culte musulman, avec ce mythe du retour au bercail, malgré le désir de s'organiser autour de symboles et de marqueurs identitaires. Et en même temps, il y a quelque chose de très intéressant sur l'observation maintenant à distance de l'islam en France. C'est ce que je pourrais appeler un choc des imaginaires. Il y a un imaginaire subsaharien autour de la construction, par exemple, de la grande mosquée de... L'histoire narrée par les subsahariens sur la grande mosquée de Paris est complètement différente l'image que s'en font les Algériens, par exemple. Et je pense que là, il y a une perception selon laquelle l'islam subsaharien et les musulmans d'origine subsaharienne devraient être vassalisés ou du moins se solidariser avec des recommandations communautaires pour être reconnus. Je rappelle cette anecdote de gens de l'EIF qui sont allés voir une mosquée mouride, un centre mouride, en leur disant vous devez venir représenter Bilal dans le CSM, et en même temps refusant de considérer que la mosquée qui était dans leur commune, qui est à Verny, n'était pas une mosquée officielle, parce que c'était une mosquée dirigée par des subsahariens. On même fait des demandes au niveau de la mairie pour avoir un autre lieu de culte qui soit véritablement islamique. Et ça, donc, je crois qu'il y a ce choc des imaginaires assez intéressant, et en même temps, ce besoin, pour être reconnu dans la communauté, il faut parfois, parce que mal expression, il faut s'arabiser. avec les inshallah, les machallah, etc. Si on dit pas ça, on n'est pas. Et le réflexe, hein, quand on venait d'arriver en France, c'est ah, vous êtes musulman? Oui, oui. Alhamdulillah, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait? Je suis musulman pour moi-même. Bon. Et donc, il y a ce regard-là assez intéressant qui vient du vécu. Maintenant, un premier point sur la circulation des marabouts et des figures de l'islam subsaharienne et les initiatives en faveur de dynamique unitaire. Je pense que Djamil en parlera plus. Mais je crois que depuis les travaux de Sophie Bavard sur les Daïres Mourides, ces travaux avaient déjà montré comment la confrérie et ses acteurs s'inscrivaient aussi dans des formes de mobilité qui favorisent le maintien d'un lien social entre musulmans subsahariens et le centre confrérie, avec les visites de Serigne Murtala Mbaké. Sophie l'a assez bien développé. Mais l'implication des autorités locales, comme les municipalités, Jean-Claude Godin, les maires de Marseille, etc. Et donc, ces dynamiques unitaires au sein de la confrérie Tijaniya, avec la migration estudiantine et l'installation progressive en France de cadres qui sont Tidjal, qui sont Mourides, etc., qui sont désireux de se retrouver au sein de structures confrériques. Et il y a des daïras traditionnelles, mais il y a eu des daïras traditionnelles, mais sans volonté de structurer cette appartenance commune. Maintenant, les conséquences des attentats du 11 septembre et leurs répercussions dans le débat sur l'islam en France, ou l'islam de France, c'est un grand débat français, vont se ressentir dans la reconfiguration de l'espace religieux. Il y a à la fois une démarcation par rapport à l'islam maghrébin majoritaire, mais aussi une volonté de réaffirmation en tant que mode de religiosité différente. Et dans ce sillage, le Forum national sur la Tijaniya en France, avec l'appel de Cheikh Ben El Mouhib, qui est d'origine algérienne et qui retrouve les Tijans de subsahariens avec des Sénégalais, des Ivoiriens, une volonté de revivification d'un lien confrérique. Et cette forme de réappropriation des lieux de mémoire a donné lieu à la montée d'une double revendication de reconnaissance. Premièrement, une revendication d'une place dans l'islam de France au sens d'une spécificité réelle ou politiquement construite. Et deuxièmement, une demande de reconnaissance au sein même de la communauté musulmane. Je sais qu'en France, on n'aime pas trop ce terme de communauté, mais je pars du regard des acteurs que nous analysons, qui se considèrent parfois comme tels, sans la charge politique que les politiciens ou les hommes politiques ont fait porter à ce terme-là. Et donc, à la suite d'une forte demande de formation, mais aussi d'affranchissement par rapport aux imams du bled, comme on disait à l'époque, des centres vont se multiplier en France dans le sillage de l'installation de librairies, mosquées, en tant que lieu de diffusion du savoir islamique. Exemple de Tawhid pour les jeunes de l'UGM dans la région lyonnaise, porté à ses débuts et soutenu par des personnalités comme le père Christian Delorme. Cette personnalité de l'Église, c'est des spécificités de cet islam en France. Cette personnalité de l'Église, le père Delorme, a été pour beaucoup dans la fréquence des voyages de Tariq Ramadan dans les années 90, après les douloureux épisodes de la génération Kelkal, pendant que la crise algérienne était fortement ressentie en France. Il avait besoin de faire émerger une personnalité qui avait un discours beaucoup plus policier, un discours moderne. Et Tawhid va devenir ce centre-là et va faire des émules, notamment dans la région lyonnaise avec le centre Al-Chatibi. Je parle d'islam maghrébin, mais pour faire le lien avec l'islam subsaharien. Centre Al-Chatibi, du nom du théologien andalou, Abu Ishaq Ibrahim ibn Moussa Muhammad Al-Chatibi, qui est mort en 1388, qui est un théologien qui est orienté vers le fiqh malikite et le dogme asharite. Et bien que le fondateur du centre, qui est un imam d'origine malienne du nom de Mohamed Minta, soit arrivé à Lyon dans les années 90 après ses études de théologie à Médine en Arabie Saoudite, la mise en avant du fiqh malikite et du dogme asharite, sont les dogmes qui sont majoritaires au Maghreb, en Afrique subsaharienne, ça va offrir une possibilité de s'insérer dans les sociétés subsahariennes. De plus, la structure à vocation d'enseignement est doublée d'une autre organisation dénommée Zakat France, pouvant se déployer aussi dans les secteurs du travail social et de l'aide humanitaire. Du coup, le succès du centre Chatibi, fondé par Mohamed Minta, imam de la mosquée de Dessine en région lyonnaise, au sein des musulmans d'origine subsaharienne, va favoriser son ancrage en banlieue parisienne avec principalement le site de Stein, Stein en Seine-Saint-Denis. Ce centre va répondre progressivement à la forte demande d'une production de savoirs religieux en langue française. Et là, on voit l'impact de la langue française comme langue de médiation religieuse. La langue française, en fait, qui est une des plus importantes langues de l'islam. Le français en tant que langue de l'islam. Donc le statut du français comme langue euro-africaine de l'islam va s'affirmer de plus en plus. Cela va participer à une démocratisation de l'accès au savoir islamique en même temps qu'il règle la question de l'accès au discours religieux qui se faisait jusqu'ici à travers les sermons en arabe littéral que même les jeunes musulmans d'origine maghrébine ne comprenaient pas. Cette nouvelle situation aura deux conséquences majeures. Premièrement, une circulation des idées et des savoirs dans un espace francophone dont l'Afrique subsaharienne est la pièce maîtresse regroupant la majorité des francophones. Et deux, le déploiement plus large d'acteurs politico-religieux qui surfent sur ce besoin de production de savoirs et d'idées mobilisables aussi bien sur le plan religieux que politique. Je vais bientôt finir. Un autre point, c'est ce qu'on pourrait appeler un glissement subsaharien de l'islam de France et de ses problématiques. C'est-à-dire que les problématiques débattues dans l'islam en France vont de plus en plus glisser et avoir de l'impact, avoir de l'écho dans les sociétés subsahariennes. Et traditionnellement, les chercheurs se focalisent sur le lien avec les pays d'origine en tant qu'obstacle pour l'intégration des musulmans de France. Nous savons que le terme intégration, politiquement très chargé en France, va créer un débat assez intéressant entre ceux qui s'inscrivent dans la perspective d'un islam en France ou d'un islam de France. Cette terminologie divise même les courants de l'islam en France ou en France, notamment au sein des acteurs des médias religieux en ligne, entre ceux qui sont vus comme des intégrationnistes et d'autres qui sont qualifiés de communautaristes. C'est un débat intra-musulman. C'est tout le débat entre Ouma.com et Safir News, et en plus des divergences en termes de ligne éditoriale. L'ancrage en banlieue parisienne, mais aussi en région lyonnaise, de ces nouveaux centres, va donner lieu à une dynamique de glissement progressif de l'islam, de ou en France, vers l'Afrique subsaharienne, avec l'émergence de médiateurs socio-religieux comme l'imam Minta, en tant qu'acteurs qui sont des traits d'union entre la France et les communautés musulmanes subsahariennes. Mais très vite, ces liens vont s'institutionnaliser avec des organisations qui leur donnent un certain cadre. Durant un séjour de recherche pendant l'été 2009 au Mali, en plein débat sur le code du statut personnel, opposant la société civile, notamment féminine, et les mouvances islamistes autour de l'imam Mahmoud Diko, ont dénoncé déjà l'intrusion d'acteurs islamiques en provenance de France qui appuyaient certains mouvements et aidaient même à acheter des centres culturels pour les jeunes pour les transformer en mosquées. Et les différents réseaux du Tablir et ces acteurs-là, il y avait un esprit de solidarité autour de la zakat pour venir en aide aux musulmans démunis, mais investissant aussi dans l'édification de lieux cultes. Enfin, ce point sur le fait que l'islam de France investit le milieu universitaire subsaharien. Il y a une spécificité dans tous ces pays-là. Il y a dans les différents campus des associations d'étudiants musulmans. L'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal, l'association des élèves musulmans du Burkina, pareil du Niger. Et certains auraient des liens idéologiques avec la mouvance des frères musulmans, avec un système d'encadrement social des étudiants et l'offre de services sociaux de base basés sur une solidarité de type religieux. De la même manière que des centres comme Tawhid et Chatibi sont devenus des lieux d'une religiosité rompant avec la tutelle des pays d'origine, les structures étudiantes musulmanes susmentionnées sont la manifestation de la montée d'un islam dit réformiste qui se démarque de l'islam confrérique soufi traditionnel. Et cette jonction-là va donner lieu à des formes de réorganisation. Et cette jonction entre les organisations islamiques françaises et subsahariennes se fera par le biais de la circulation des savoirs et des idées, ainsi facilitée par la communauté linguistique francophone, mais aussi les liens entre foyers migratoires et certaines régions françaises. L'influence d'une personnalité comme Tariq Ramadan, qui va s'appuyer sur des réseaux comme ceux de l'UGM et des musulmans de France, ex-UEI, va peser de tout son poids sur ce processus de jonction entre, d'une part, la circulation des savoirs et des idées, surtout la transposition des problématiques et des débats autour de l'islam en France. Le voile, la politique de Sarkozy, les émeutes de 2006-2007, les sorties médiatiques de personnalités françaises comme Onfray, BHL, Zemmour. Et ce débat-là, ce processus, va s'appuyer sur une concordance de vues autour d'une nécessaire décolonisation de la pensée à laquelle vont adhérer les anciens catholiques de la gauche africaine qui voient en l'islam politique un levier efficace de contestation de l'impérialisme et des formes de domination néolibérale. C'est dans ce sillage qu'il y aura ce colloque international des musulmans de l'espace francophone à Bamako. Ah, je dois conclure. Donc on conclut à Bamako. Donc à Bamako qui va être organisé, mais je conclue sur ça, d'accord. Est-ce que je peux avoir une minute pour conclure? C'est ça, hein, la conclusion aussi est en temps plein. Donc dans ce sillage-là, donc il y a en juillet 2010, c'est Bamako. Après, ce colloque va tourner avec la présence de personnalités venant de l'UGM, de l'UEF. En 2000, c'est en Côte d'Ivoire. 2002, c'est au Niger. 2004, au Togo. 2008, au Togo. Et l'édition de 2010 au Mali sur les questions de paix et sécurité, avec la présence de l'UGM et de Tariq Ramadan. Mais l'édition de 2013 va être le lieu de contestation de la politique française dans le Sahel. Donc on transpose les questions du débat entre du rapport entre l'État français et l'islam sur le terrain subsaharien, ce qui a un certain impact. Je pourrais peut-être détailler ça après, avec toutes ces éditions qu'il y a eu, et notamment la connexion entre cet islam-là et le Qatar via l'islam français, parce que c'est avec le Centre international pour la législation et l'éthique de Tariq Ramadan, qui est financé par le Qatar et basé à Doha, que ces colloques-là vont être financés. Donc une transposition de ce débat à ce territoire. Maintenant, une ou deux phrases sur l'enjeu. Ouais, je négocie, mais excusez-moi. les enjeux maintenant sur la radicalisation. Je pense que, bon, j'ai pas le temps de faire de la terminologie. Je crois, vous êtes d'accord avec moi sur le flou autour de ce terme-là, qui parle de radicalisation ou de radical, doit être capable de délimiter le champ du normal et du radical. Je n'entre pas dans ce débat-là. Mais dans l'espace francophone, on parle de radicalisation. Dans l'espace anglo-saxon, extrémisme violent. Et toute la difficulté en France, c'est faire la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai été contaminé par les centres, par les think tanks, donc je suis dans le policy. Est-ce qu'il faut tirer profit de la nouvelle situation induite par une circulation plus intense de marabouts et guides religieux confrériques en développant un système plus élaboré d'encadrement social par le biais de la vie confrérique et du modèle pacifique du soufisme, avec le risque de tomber dans les mêmes travers de l'islam des origines? Toujours la même problématique, est-ce qu'il faut rompre ou renforcer les liens avec les pays d'origine au regard de la transnationalité poussée qui appelle un islam subsaharien, sachant que cet islam qu'on appelle subsaharien aujourd'hui est traversé par les mêmes courants qui ont traversé l'islam directement maghrébin. Le dilemme français, pour conclure, le dilemme français, je crois, est comment concilier entre le principe laïque avec l'intervention sur un champ religieux devenu aterritorial, usant des leviers traditionnels d'influence de l'État français, la langue française, qui est considérée comme un instrument d'intégration ici, mais en tout cas qui est utilisé pour transmettre des idées les plus radicales à travers un espace. Et l'occupation du terrain et de l'espace discursif pour ne pas laisser ce terrain-là aux entrepreneurs identitaires manipulant les symboles religieux pour des motifs politiques. Merci.